Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer.
L'œuvre étrange de Dieu. Titre étrange pour une méditation du centre évangélique. La phrase, certains l'ont reconnue, est du livre d'Ésaïe, mais l'exemple vécu que nous voulons découvrir ensemble ce matin est l'exemple de notre prophète, le prophète Habacuc. L'un des 12 pour le canon juif, l'un des petits prophètes, comme nous le disons maintenant, non pas parce que ils sont de petite envergure spirituelle, mais simplement parce que leurs livres sont plus courts qu'Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. Je pense que 2 ou 3 versets d'Habacuc sont bien connus dans nos églises, chantés même parfois. Mais dans son ensemble, je ne crois pas me tromper en disant que le livre est peu connu. Et je vous demande peut-être de faire l'expérience un jour, de proposer une lecture dans Habacuc et d'entendre le bruissement de beaucoup de feuilles de Bible, de voir des gens tourner désespérément les pages et puis, pour finir, fermer la Bible et écouter. C'est dommage. Il y a beaucoup de richesses dans ce petit livre. Que sait-on de l'homme Habacuc? Peu de choses. Son nom est inconnu en dehors de son livre. Dans son livre même, nous avons juste son nom et non pas le nom de son père ou de sa tribu. Peut-être une indication pour nous dire que Habacuc était de condition modeste. Il y a dans le livre des termes musicaux, ce qui peut nous amener à penser qu'il était lévite, peut-être dans le service de la musique au temple. Il est appelé Habacuc le prophète, prophète ponctuellement comme Amos, suscité par Dieu comme cela en un moment précis. Ou peut-être bien plutôt, prophète avec un ministère permanent, un peu comme son contemporain Jérémie. Mais si nous disons qu'il est inconnu en dehors de son livre, il est l'un de ces prophètes qui se dévoile, qui nous laisse pénétrer dans son intimité lorsque nous lisons ce qu'il a écrit. Nous nous transportons donc mentalement à la fin des années 600 avant notre ère. Sur la scène internationale, c'est la fin d'une époque. L'empire assyrien s'est effondré devant les attaques répétées de Babylone. L'Égypte n'est plus en mesure d'influer sur les événements. Elle ne gardera son influence en Palestine que quelques années encore. Et la liberté, l'existence même des petits États de la région est menacée. L'existence de Juda est menacée. Babylone est en train de s'imposer partout. Au royaume de Juda même, le bon roi Josias est mort. Ce roi avait remis en valeur la loi, avait supprimé les cultes idolâtres, avait supprimé les sacrifices d'enfants, la prostitution culturelle, quelle horreur, l'anarchie des hauts lieux, tout cela sous Josias a disparu, mais maintenant il est mort. C'est Joachim qui règne à sa place, et les vieilles habitudes païennes reviennent au galop. le ministère prophétique de Jérémie est contesté. La loi retombe dans l'oubli. Les injustices se multiplient. Et Habacuc, homme sensible et pieux, se demande, mais pourquoi ce retour en arrière? Pourquoi tant de gâchis après des années d'espoir? Voilà donc le cadre de notre livre. Et nous allons maintenant lire le début, les tout premiers versets, dans la version du Semeur 2000. C'est quelqu'un de l'église d'Ozoir, Bernard Reiss, qui va nous le lire. Du verset 1 à 4.
Proclamation dont l'Éternel a donné la révélation à Habacuc, le prophète. Jusque à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu entendes mon cri? Jusque à quand devrais-je crier vers toi à la violence sans que tu nous délivres? Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Peux-tu rester indifférent à nos tourments? Je ne vois devant moi que ravages et violences. Il y a des querelles et des conflits surgissent. À cause de cela, on ne respecte plus la loi et le droit n'est pas garanti. Car les méchants empêchent les justes d'agir. Les jugements qui sont rendus sont corrompus.
Merci. Voilà donc le point de départ du livre. La souffrance du prophète qui constate les malheurs de Juda. Le climat social se dégrade, la violence s'installe partout, dans les rues, dans les maisons, dans les tribunaux et jusqu'au sommet de l'État. Pourquoi Dieu le permet-il? Jusqu'à quand les injustices, les tourments, les ravages, les querelles, les conflits qui surgissent de toutes parts? Jusqu'à quand Habacuc doit-il voir cela? Il y a bien une loi censée guider la vie du peuple de Dieu, mais cette loi n'est pas respectée. Les gens de bien sont écrasés. Les jugements rendus par les tribunaux sont décidés par l'argent et non pas par le droit. Et bien sûr, Habacuc a prié pour que Dieu intervienne. Il a beaucoup prié. « J'appelle à l'aide, dit-il. Tu n'entends pas mon cri. Je crie vers toi et tu ne délivres pas. Pourquoi? Pourquoi Dieu se tait-il? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas? » Et nous pouvons dire que c'est le cri de tout homme qui n'en peut plus. Dans la Bible de Job, du psalmiste, c'est aussi le cri de nous autres devant tant et tant de souffrances. Pourquoi devons-nous assister impuissants à la mort d'un être cher? Pourquoi tant de brutalité sur une jolie plage du Pas-de-Calais? Pourquoi le sang a-t-il coulé dans le métro de Lille? Pourquoi le funiculaire de Cap-Roun? Et jusqu'à quand allons-nous voir sur l'écran de notre télévision, dans les pages d'IDEA, dans notre courrier électronique, des guerres ethniques, des persécutions religieuses, des abominations de tous ordres? Le Soudan, l'Indonésie, le Congo? Je trouve qu'il faut avoir le cœur bien accroché pour s'informer de la situation de nos frères là-bas. Il faut du courage pour lire le bulletin de portes ouvertes, pour ne pas fermer les yeux, pour s'engager dans la prière. Et à ces souffrances, Dieu ne met pas fin. Son silence est impénétrable, intolérable. C'est comme si Habacuc demandait des comptes à Dieu. N'est-ce pas un manque de respect? Le prophète, c'est son métier. Il est censé rappeler à l'ordre son peuple. Et voilà que c'est Dieu que le prophète interpelle. Mais il se trompe de cible. Il va se faire foudroyer sur place. Mais non. La prière d'Habacuc est violente. Mais c'est une prière quand même. Comme dans les psaumes, comme dans Job. Une vraie prière. Sans fard. Authentique. L'expression d'une angoisse que le prophète doit sortir, que Dieu ne rechigne pas à entendre. Il fallait commencer par là. Pas en essayant par tous les moyens de chasser les idées noires, mais en s'ouvrant à Dieu et en lui disant le mal qui vous range. Quant à la fin du livre, la louange se fera entendre. Alors là, nous saurons que ce n'est pas truqué. Jusque à quand? On peut se demander ce qu'il veut comme réponse, Habacuc. Si quelqu'un lui disait, attends encore 25 ans, jusqu'en 586, ce ne serait pas une réponse. Il ne veut pas une réponse cartésienne. Il a déjà vu trop de misère, et quand il dit à Dieu « jusque à quand ?», c'est une façon de dire « j'ai déjà trop vu ». Cela ne peut pas continuer une minute de plus. On peut donc dire que Habacuc veut comprendre, oui, mais il veut surtout être délivré. Pourquoi ? Et cela ne sert à rien de dire « parce que les batteries ont pris feu, parce que le chauffeur avait bu, parce que Adam a péché, parce que tu avais besoin de prendre une raclée. » On entend ce genre de choses. Mais ces réponses, aussi justes soient-elles parfois, elles ne répondent pas à notre angoisse. Et seule une rencontre avec Dieu va le faire. Et par cette première prière, par les 4 premiers versets, Habacuc fait le premier pas dans ce sens. Il veut de la part de Dieu une réponse qui réponde à son angoisse, et on va maintenant l'entendre. Une réponse qui vient à la rencontre des angoisses fondamentales du prophète. Qu'est-ce que tu fais, Dieu, pour que cessent les injustices et pour que le droit soit respecté? Habacuc 1, versets 5 à 11.
Regardez, traîtres, et observez. Vous serez stupéfaits, vous serez ébahis. Car je vais accomplir en votre temps une œuvre. Vous ne le croiriez pas si on vous en parlait. Je vais faire venir les Chaldéens, peuple féroce et déchaîné, qui parcourent les étendues de la terre pour prendre possession des demeures d'autrui. Il est terrible et redoutable. Il garantit lui-même son droit et son pouvoir. Ses chevaux sont agiles, plus que des léopards, et ils ont du mordant, plus que les loups du soir. Ses coursiers se déploient, ils arrivent de loin, ils volent comme l'aigle lorsqu'ils font sur sa proie. Oui, les voilà qui viennent, tous adonnés à la violence, le visage tendu, ils foncent en avant. Voilà les prisonniers rassemblés, innombrables comme les grains de sable. Partout, ce peuple traite les rois avec mépris, et il se rit des princes et de toutes leurs forteresses. Il élève contre elles des terrasses de siège et s'en empare. Puis il change d'avis et il passe plus loin. Il se charge de crimes, lui qui voue sa force à son Dieu.
Étrange réponse de la part de Dieu.
un petit détail qui a pu vous troubler au verset 5. Là, Dieu demande aux gens de regarder ce qui se passe parmi les nations, selon de nombreuses traductions. La Bible du Semeur s'est alignée plutôt sur un manuscrit de Qumran, sur la Septante et sur Acte 13, pour lesquels Dieu lance plutôt un défi aux traîtres du peuple de Juda, à ceux qui n'ont pas respecté la loi et l'alliance. Mais ce détail n'est pas un problème fondamental, parce que la substance de la déclaration de Dieu, c'est ça qui est important, et c'est stupéfiant pour corriger son peuple. Dieu va faire venir dans tout le Moyen-Orient, et surtout en Palestine, un peuple féroce, les Chaldéens, c'est-à-dire les Babyloniens. Habacuc les connaît. Ils ont conquis leur indépendance à l'égard de la Syrie, voici 20 ans, en 626. Ils ont rasé la capitale assyrienne en 612. Ils ont tenu les Égyptiens en échec en 609. Ils vont se rendre maîtres de tout le Moyen-Orient en 605. Ils sont irrésistibles, impitoyables, cruels. Et Dieu lui-même, au verset 9, au verset 11, reconnaît qu'ils sont idolâtres. Habacuc, lui, aspirait à un réveil national, à la venue peut-être d'un nouveau Josias. Il priait pour que souffle un vent purificateur. Et Dieu suscite un ouragan qui balayera tout sur son passage. Vous pensez bien que ce n'était pas du tout la réponse que cherchait Habacuc. Il était préoccupé par les problèmes internes de Juda, des injustices bien réelles, mais locales. Et Dieu lui parle d'un séisme politique et militaire qui touche toute la région. Habacuc veut que la loi soit restaurée, et voilà que Dieu suscite un peuple païen chargé de crimes. Dieu va accomplir une œuvre inimaginable, incroyable, inconcevable. Voici 100 ans, Ésaïe, dans le contexte d'une invasion assyrienne, l'avait appelé son œuvre étrange. Et nous pouvons bien imaginer quelle va être l'incompréhension du prophète. Au lieu d'alléger son fardeau, Dieu l'a rendu plus lourd. Le remède semble être pire que le mal. Réponse inattendue. Est-ce qu'il y a de la place dans notre piété pour que Dieu fasse l'inattendu? Il peut nous délivrer de manière inespérée. Il peut au contraire nous faire passer par des épreuves que nous aurions voulu éviter. Est-ce que nous cherchons, comme ces Judéens à la fin de Jérémie, est-ce que nous cherchons à connaître la volonté de Dieu en ayant défini à l'avance ce qu'elle doit être? Ou est-ce que nous tenons compte de ce que Dieu est créateur, et donc créatif, qu'il est souverain, et donc seul décideur? Nous allons écouter la réaction du prophète. Chapitre 1, verset 12, jusqu'au début du chapitre 2.
N'es-tu pas depuis l'origine, ô Éternel? Tu es mon Dieu, mon saint. Tu ne meurs pas. Ô Éternel, toi le rocher, c'est pour exécuter le jugement que tu as suscité ce peuple, et tu l'as rendu fort pour qu'il soit l'instrument du châtiment. Tes yeux sont bien trop purs pour accepter de voir le mal. Tu ne peux supporter la vue de l'affliction. Pourquoi supportes-tu la vue des traîtres? Pourquoi gardes-tu le silence quand l'impie engloutit un plus juste que lui? Tu traites les humains tout comme des poissons ou comme des bestioles qui n'ont ni chef ni maître, car le Chaldéen les prend tous à l'hameçon. Il les drague dans son filet et les entasse dans sa nasse. C'est pourquoi il se réjouit et il exulte. Alors il offre à son filet des sacrifices. Il brûle de l'encens en l'honneur de sa nasse, car il obtient par eux une pêche abondante, des repas plantureux. Continuera-t-il donc toujours à dégainer son glaive pour égorger d'autres nations sans aucune pitié? Je me tiendrai à mon poste de garde. Je resterai debout sur le fort du guetteur, et je guetterai pour savoir ce qu'en moi-même Dieu me dira, ce que je répondrai à ma protestation.
Nous pouvons baliser la souveraineté de Dieu en disant que Dieu ne fera pas des choses incohérentes, arbitraires, incompatibles avec sa parole. C'est bien. Mais justement, le prophète est stupéfait, car ce que Dieu annonce contredit sa sainteté. Voilà l'incompréhension. Voilà pourquoi Habacuc proteste. Ce n'est pas qu'il ne connaît pas Dieu et qu'il manifeste ainsi son ignorance. C'est qu'il connaît Dieu. Et c'est pour cela que le plan de Dieu lui paraît, oui, aberrant. Habacuc se tourne vers Dieu. « Vers son Dieu, dit-il, son saint. » Dieu est depuis toujours. Il est l'Éternel, le Dieu de l'Alliance. Il est saint. Il est souverain sur les peuples. Il exerce le jugement. Et voilà le problème. Le juge de toute la terre tolère, provoque même, provoque des injustices pires que celles qu'il était censé corriger. Le seul saint utilise pour accomplir ses desseins un peuple qui ne le reconnaît pas comme Dieu, un peuple sans pitié, des monstres. Eux traitent les humains comme des poissons pris à l'hameçon ou au filet, mais Dieu fait pareil. Pourquoi gardes-tu le silence quand l'impie engloutit un plus juste que lui? C'est le problème que l'histoire nous pose. J'étais très surpris de lire, il n'y a pas tellement longtemps, sur la Shoah et sur l'interprétation qu'en donnent certains rabbins, minoritaires j'espère, en Israël. Pour les uns, la Shoah a frappé de mauvais juifs. Et pour les autres, la Shoah a frappé des gens qui avaient péché dans une vie antérieure. Quelle horreur. Expliquer, c'est justifier. Comprendre, dit le proverbe, c'est tout pardonner. Et c'est tout à fait à l'honneur d'Habacuc qu'il n'explique pas, qu'il ne comprend pas, qu'il n'accepte pas. Si Habacuc avait cru en des dieux cruels et arbitraires, il n'aurait pas été surpris par la réponse de Dieu. Des divinités mangeuses d'hommes, l'histoire de l'époque en connaît. Mais Habacuc croit que Dieu est juste. Il voit bien le but que Dieu poursuit, verset 12, le châtiment, le jugement de son peuple. Jusque-là, ça va. Mais les moyens que Dieu emploie sont inacceptables. Habacuc ne peut pas supporter de voir le mal. C'est l'origine même de son livre. Habacuc ne peut pas supporter de voir le mal. Comment se fait-il que Dieu le peut? Il doit y avoir une explication. Et cette explication ne peut venir que de Dieu. Quand notre raison, notre théologie paire de pieds. Seul Dieu peut nous répondre. C'est ce que Job attendait, et c'est là ce que Habacuc attend. Il attend au chapitre 2, verset 1er. Et je ne sais pas si ce poste de garde, ce grand port, ce fort du guetteur, sont à prendre au pied de la lettre ou pas. Habacuc a très bien pu se retirer dans son fort santé intérieur. Mais très souvent, pour prendre du recul, notre esprit a besoin d'un isolement physique. Nous pouvons très bien imaginer le prophète perché sur la plus haute tour de Jérusalem, ou se retirant dans quelque fortin isolé dans le désert, en haut des collines, là où les guetteurs scrutent l'horizon dans l'attente d'un signal. Habacuc aussi attend un signal, un message, un mot de la part de Dieu. Il a besoin de recul, de solitude. Peut-être a-t-il besoin de temps aussi. Et la formulation de la fin du premier verset du chapitre 2 est une formulation intéressante. Je guetterai pour savoir ce qu'en moi-même Dieu me dira, ce que je répondrai à ma protestation. La colombe dit, je vais guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai au sujet de mes doléances. C'est bien Habacuc lui-même qui répondra ou qui répliquera à sa propre contestation. Autrement dit, la réponse de Dieu, quand elle viendra, sera intériorisée, sera intégrée dans le discours et dans la pensée du prophète. Il faut que ce soit comme ça. Prendre sa tour de garde, guetter la réponse de Dieu, s'isoler, attendre. Est-ce que dans notre vie d'église, nous trouvons le temps pour écouter Dieu? Ne sommes-nous pas à la recherche de la réponse la plus rapide, la plus efficace? C'est ainsi que fonctionne toute notre civilisation. Elle nous entraîne dans son sillage et notre vie de prière en pâtit. En fin de compte, notre efficacité même en pâtit. Parce que nous n'avons plus pour notre ministère les réponses inattendues de Dieu. Et là, je ne vous accuse pas, frères et sœurs. Je parle pour moi. Quand nous comprenons pas ce que Dieu veut de nous, nous devons prendre le recul, le temps, pour écouter. Et voyons maintenant comment Dieu a de nouveau répondu à l'angoisse du prophète. Nous lirons la suite du chapitre 2, versets 2 à 20.
Écris cette révélation et grave-la sur des tablettes. Écris-la clairement pour que chaque lecteur la lise couramment. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. En effet, la richesse décevra le guerrier orgueilleux, et il ne réussira pas, lui qui, tel le séjour des morts, ouvre une large bouche, et qui, comme la mort, n'est jamais rassasié. Car il ajoute à ses conquêtes nation après nation, et il rassemble tous les peuples sous sa domination. Mais un jour, tous ces peuples lanceront contre lui des proverbes moqueurs et des paroles ironiques. Et l'on dira, malheur à lui, car il amasse des richesses qui ne sont pas à lui. Jusque à quand cela va-t-il durer? Il accumule un lourd fardeau de dettes. Tes créanciers ne surgiront-ils pas soudain? Ils se réveilleront pour te faire trembler. Ne seras-tu pas mis au pillage par eux? Toi qui as dépouillé des nations innombrables, tu seras dépouillé par les peuples qui restent. Car tu as répandu le sang des hommes,
Tu as commis des actes de violence contre le pays de Juda, sa ville et tous ses habitants. Malheur à qui amasse un profit malhonnête pour toute sa famille et cherche ainsi à établir son nid sur les hauteurs pour le mettre à l'abri de tout malheur. Oui, c'est le déshonneur de ton propre royaume que tu as préparé. En détruisant de nombreux peuples, tu t'es fait du tort à toi-même. Car du sein des murailles, les pierres vont crier. De la charpente, les poutres leur feront écho. Malheur à qui bâtit la ville en répandant le sang, à qui fonde la cité sur le crime. Quand les peuples travaillent pour ce qui périt par le feu, et quand les nations s'éreintent pour rien, cela ne vient-il pas de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes? Car la terre sera remplie de la glorieuse connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Malheur à toi qui force ton voisin à boire et qui vide ton outre jusqu'à l'ivresse pour pouvoir contempler sa nudité. Toi aussi tu seras rassasié d'infamie au lieu de gloire. Toi aussi tu boiras et puis l'on te mettra à nu pour découvrir ton incirconcision. Ton tour viendra de boire la coupe de colère que l'Éternel te tendra de sa droite. Le déshonneur recouvrira ta gloire. Tu seras submergé par la violence même que tu as exercée contre la forêt du Liban. Le massacre des animaux retombera sur toi pour t'écraser. Car tu as répandu le sang des hommes, tu as commis des actes de violence contre le pays de Juda, sa ville et tous ses habitants. À quoi sert une idole sculptée par l'artisan, ou une statue de métal fondu qui n'est qu'un guide mensonger? Car celui qui l'a faite se confie en son œuvre pour fabriquer une idole muette. Oui, malheur à qui dit à un morceau de bois « Réveille-toi !» À la pierre muette « Allons, sors du sommeil » Peuvent-ils enseigner? Voici, ils sont plaqués d'or et d'argent, mais il n'y a en eux aucun souffle de vie. L'Éternel, lui, se tient dans son saint temple. Que le monde entier fasse silence devant lui.
Devant l'œuvre étrange de Dieu, Habacuc est déboussolé. Il s'est mis à attendre une réponse, et la voilà, au chapitre 2. Quelle est la forme de cette réponse? Au verset 2 du chapitre 2, c'est une vision, dit la colombe, mais une vision, cela se voit. Habacuc n'a peut-être rien vu de ses yeux. Il doit au contraire écrire des choses sur des tablettes. Il s'agit donc de paroles qu'il doit conserver et transmettre plus loin. C'est peut-être parce que le prophète n'a rien vu de ses yeux que la Bible du Semeur et la Bible en français courant parlent plutôt d'une révélation. Il faut que tout un chacun puisse la lire couramment. C'est une révélation ouverte au public, accessible. Et nous dit le texte, c'est une parole certaine. Même s'il faut attendre l'accomplissement de la prophétie, elle n'est pas mensongère, elle se réalisera sûrement. Les traducteurs divergent sur le point de savoir si c'est la vision qui vient sûrement, au verset 3, ou si c'est l'Éternel qui vient sûrement, mais la différence n'est pas énorme, car la vision porte sur la venue du Seigneur pour redresser les torts. Si la vision vient sûrement, c'est parce que l'Éternel vient sûrement. La Bible nous donne aujourd'hui une révélation certaine, encore qu'il faut bien la comprendre. Mais qu'en est-il des réponses que nous pouvons attendre, nous, de la part de Dieu, lorsque nous l'interrogeons? Nos écrits, à nous, ne feront jamais partie de la Bible. Quelle que soit la forme de cette réponse que Dieu nous donnera, et cela dépendra beaucoup de la piété de chacun, nous sommes appelés à examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon. Un tri se fait. La certitude est moindre chez nous. Mais il n'empêche que si la certitude est moindre, nous aussi, nous avons envie de marcher avec Dieu par la foi. Ma conviction est peut-être très forte. Ce n'est pas sa seule force qui la rend valable, car je suis pécheur. Je peux m'illusionner moi-même. Si mon intuition est conforme aux Écritures, alors là, je serai plus confiant. Et si la suite des événements confirme la chose, là encore, j'aurai de l'assurance. Est-ce que la vision que reçoit Habacuc est conforme à ce qu'il pouvait déjà connaître de la révélation de Dieu? Ah, la réponse est oui. En Deutéronome 28, Dieu annonçait les malheurs qui frapperaient le peuple qui se détourne de l'Alliance. Malheur qui inclut la guerre, l'invasion, l'exil. Et le message que Habacuc reçoit sur les Babyloniens trouve beaucoup de parallèles avec ce que Ésaïe a entendu au sujet des Assyriens. Ils interviennent pour punir l'infidélité du peuple de Dieu. Dans leur cruauté, ils outrepassent les limites imposées par Dieu. Dieu les châtiera à son tour. À leur tour. Donc, le message que reçoit Habacuc n'est pas totalement inédit. Dans les textes sacrés auxquels il pouvait avoir accès, il a pu trouver la confirmation de ce qui lui paraissait inacceptable. Voyons maintenant pour le fond de cette réponse du chapitre 2. Il se résume très simplement. La méchanceté des Babyloniens sera jugée et châtiée à son tour. Et Dieu prononce sur les Babyloniens les 5 malheurs que nous avons lus. Je ne sais pas si vous avez réussi à les suivre. Malheur aux accapareurs. Malheur aux malhonnêtes. Malheur aux violents. Malheur à celui qui enivre son prochain. Malheur aux idolâtres. Nous pourrions commenter ces malheurs dans le détail, verset après verset, mais j'aimerais plutôt essayer de voir ce qu'il y a derrière, d'essayer de trouver les 4 leçons essentielles de ce chapitre. Et la première, c'est que Dieu est souverain dans l'histoire des hommes. Les Babyloniens pensent que c'est leur propre force qui leur assure des conquêtes sans fin, ou leurs idoles. Une nation vaincue, c'est une nation dont le Dieu est vaincu. Les Israélites pouvaient peut-être croire la même chose. Si nous sommes vaincus, c'est que l'Éternel est vaincu. Mais non, c'est Dieu lui-même qui suscite les Chaldéens, et c'est lui qui les brisera. Aussi. Le monde n'est pas un champ de bataille où une multitude de dieux s'affrontent par peuples interposés. Le monde est sous le regard d'un Dieu unique qui règne. Nous nous ennuyons peut-être à lire dans Jérémie ou Ézéchiel les oracles contre les nations. Pourquoi ces passages? Ils sont là, entre autres, pour la même raison que dans ce chapitre 2 d'Habacuc, pour proclamer le règne universel de Dieu. En pensant à cette souveraineté de Dieu, j'ai pensé à mes amis de l'église de Noisiel. À la recherche d'un local, sans domicile fixe, se réunissant pour l'instant dans une église sœur, un projet enthousiasmant, bloqué par la mairie qui préempte. Un deuxième projet, encore plus enthousiasmant, bloqué par les copropriétaires. Pourquoi? Jusqu'à quand? Si on sait que Dieu est souverain, dans l'angoisse, on tient, comme mes amis vont tenir. Et au verset 13 de ce chapitre, vous avez cette souveraineté de Dieu expliquée très clairement. Quand les peuples travaillent pour ceux qui périssent par le feu, et quand les nations s'éreintent pour rien, allusion à la future chute de Babylone, cela ne vient-il pas de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes? Souveraineté de Dieu. Et de là découle une deuxième leçon. C'est que Babylone, qui n'a pas la loi de Dieu, est tout de même redevable devant des critères de justice universelle. Elle n'a pas la loi de Dieu, mais la loi est quelque part inscrite dans son cœur. Que lui reproche-t-on? D'amasser des biens qui ne sont pas les siens, de piller d'autres nations, de faire couler le sang, de chercher un profit malhonnête pour assurer son avenir, de fonder sa ville et sa civilisation sur le crime, d'enivrer et de dénuder son prochain. Et là, vous pouvez le prendre au sens propre. Vous pouvez le prendre comme une image de l'humiliation extrême infligée à autrui. Des critères qui seraient manifestement acceptés et reconnus partout. Des critères de justice universelle. Un critère semble faire exception à ce que je vous propose là. C'est à la fin du chapitre la fabrication et le culte des idoles. À la fin du troisième millénaire, nous aurons tendance à dire que chacun a droit à sa religion, que l'idolâtrie n'est pas grave, ce n'est pas un crime, et nous savons bien que l'une des valeurs essentielles de notre civilisation, c'est la tolérance. Est-ce que Dieu est tolérant? Un mot plus juste serait peut-être de dire que Dieu est patient. Mais en fin de compte, l'Épître aux Romains nous dira que l'idolâtrie est une perversion de ce qu'un peuple peut connaître de Dieu à travers la création. Donc même ici, j'ose croire que le jugement de Dieu sur Babylone repose sur des principes universel. Dieu qui juge. Dans l'histoire des hommes, est-ce possible d'imaginer cela dans le monde contemporain? C'est très délicat, j'en dirai un mot tout à l'heure. Mais je pense déjà à ce qui a été dit par Abraham Lincoln au siècle dernier à propos de la guerre de sécession. Il était arrivé à la conviction que l'esclavage était un péché partagé par le Nord et par le Sud et qu'il fallait laver ce péché sur le champ de bataille. Il a dit ceci, « Si Dieu veut que, elle, la guerre, se poursuive jusqu'à ce que chaque goutte de sang versée sous le fouet soit expiée par une autre versée par l'épée, il faudra encore et toujours affirmer que les jugements de l'Éternel sont vrais et entièrement justes. Confronté à une guerre horrible, Lincoln essaye de voir quel pouvait être le sens d'un juste jugement de Dieu de son temps. L'histoire des hommes est tissée de part et part de choses terribles qui n'échappe pas à la souveraineté de Dieu. Et si ce n'est pas maintenant, justice sera tout de même un jour rendue. Ce qui nous amène à une troisième leçon. Vous avez peut-être remarqué que dans la présentation des fautes de Babylone, il y a une présentation de châtiments qui leur correspondent. Celui qui accumule des richesses qui ne sont pas à lui, accumule une dette qui qu'il va bien falloir rembourser. Celui qui a dépouillé de nombreuses nations sera dépouillé à son tour. Celui qui a enivré et dénudé les autres sera enivré et dénudé à son tour. Sa violence retombera sur lui. Il a cru bâtir sa propre gloire. Il a bâti sa ruine. C'est, je crois, la loi du talion, qui n'est pas la même chose que la vendetta. La loi du talion répond donc à une notion de justice élémentaire, assez proche de la notion de réparation. Et là, c'est Dieu qui tient les comptes. C'est Dieu qui rend à chacun son dû. Une loi qui limite la vengeance. Habacuc n'est pas Lémec, en Genèse 4, qui tue un homme pour sa blessure, qui veut se venger 77 fois. C'est une rétribution adaptée à la faute et limitée par elle. C'est pour cela qu'elle fait partie de la loi de Moïse. Et quand il y a de graves injustices, nous le voyons tous les jours, que demandent les victimes? Que demande l'opinion publique? Eh bien, d'abord, l'injustice. Après, on pourra parler de la réhabilitation des coupables. Après, on pourra parler de réconciliation. Mais d'abord, on demande l'injustice. Mais, là, j'entends la voix des proches de certains martyrs iraniens de notre temps. La voix du pardon. Sachons pertinemment que l'injustice ne sera sans doute jamais rendue sur cette terre. Vous avez lu, comme moi, des paroles de pardon. On peut donc aller plus loin que la loi du talion. On peut mettre en pratique le sermon sur la montagne. On peut tirer des leçons de la croix. La justice de Dieu, oui, mais la grâce. Et on parlera de la grâce demain. Quatre leçons dans ce chapitre, la souveraineté de Dieu, les critères de jugement universel, la loi du talon qui limite et qui définit le châtiment, et puis une troisième leçon, une très belle, au milieu de ces cinq malheurs. Une vision de l'histoire marquée par le jugement. Jugement sur Judas, jugement sur Babylone. Mais après ces moments sombres, il y a de la lumière. Relisons les versets 13 et 14. Quand les peuples travaillent pour ce qui périt par le feu, et quand les nations s'éreintent pour rien, cela ne vient-il pas de l'Éternel, du Seigneur, des armées célestes? Là, c'est le jugement dès maintenant. Car la terre sera remplie de la glorieuse connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Voilà ce qui nous tire en avant. Voilà ce qui nous donnera une autre perspective sur les soubresauts de l'histoire humaine. Le dernier mot n'est pas avec l'injustice qui éclate sur le pas de ma porte. Le dernier mot n'est pas avec les injustices sans nom qui frappent le monde. Il n'est même pas dans l'œuvre étrange que Dieu fait parmi les peuples de la terre et dans son juste jugement. Le dernier mot, c'est la terre remplie de la glorieuse connaissance de l'Éternel. Habacuc, dans ton angoisse, il te faut regarder plus loin. Pour le moment, il nous est très difficile de discerner un sens à l'histoire, à la grande histoire comme à la petite, à la nôtre. Il y a sûrement quelques points fixes, des amers, comme disent les marins. Abraham, Moïse, David, l'incarnation, la croix, le retour de Christ. Jésus est venu sur terre quand les temps furent accomplis. Jusque-là, nous sommes d'accord, nous comprenons le sens de l'histoire. Mais depuis, comment faut-il interpréter les péripéties de l'histoire? La carrière de Napoléon a bouleversé la France et l'Europe. Les Anglais ont cru y voir l'Antichrist. Mais quel sens est-ce que cela peut avoir maintenant? Comment lire notre quotidien, notre journal, d'un point de vue prophétique? Beaucoup de chrétiens s'y sont essayés. Pas toujours avec succès. Mais tout de même, quand la justice marque des points, quand une tyrannie s'écroule, quand la connaissance de l'Éternel se répand, eh bien là nous avons le droit de nous réjouir et d'y voir un début de réponse à la prière que Jésus nous a apprise. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Un début de réponse. Nous levons la tête, nous regardons plus haut, nous remarchons par la foi. Quand nos prières sont avant tout des pourquoi, oui, nous marcherons par la foi. Ça, c'est notre sujet de demain. L'Éternel, lui, se tient dans son saint temple. Que le monde entier fasse silence devant lui. Amen.